finale. L'émission Écho de la solidarité internationale, présentée par la Maison des territoires du monde et de la solidarité internationale.
Eh bien, bonjour à tous. Nous revoilà dans ces studios fort accueillant, je le dis chaque fois, mais je ne m'en lasse pas, de FM+, qui nous permet d'aborder ces échos de la solidarité internationale. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de me trouver en compagnie de Madame Maria Blanco, qui est la présidente de l'association Teria Solidarité. Elle vous expliquera un petit peu tout ça, mieux que moi sûrement. Et je l'accueille avec grand plaisir et grand bonheur. Et elle va nous emmener sur des chemins, peut-être un peu africains. Bonjour Maria.
Bonjour Marie-Claude.
Ça va? Tout va bien?
Tout va bien. D'accord. Et merci pour votre invitation.
Et oui, et puis merci, vous êtes déplacée. En plus, aujourd'hui, on ne peut pas dire, mais on est quand même sous la pluie. Et puis pas qu'une petite pluie, on n'a pas l'habitude ici. Où... Voilà. Bon, donc Maria, on est là pour parler, entre autres, de ton association, qui s'appelle, j'ai bien dit, Teria Solidarité. L'orthographe, on la redit peut-être un peu?
Oui.
Tu l'as dit? Tu
expliques? Oui, je peux la dire. T-E-R-I-Y-A.
Et voilà, solidarité, ce qui veut dire
amitié en bambara.
En bambara. Voilà, donc vous l'avez compris, nous sommes en Afrique. Alors j'aimerais bien, Maria, que tu nous dises un peu l'origine de cette association, qui est quand même assez connue sur Montpellier, puisque vous faites beaucoup d'événements, en particulier culturels d'ailleurs. Et j'aimerais bien que tu nous expliques un peu l'origine, le pourquoi, etc. Et puis après le reste, on continuera.
Alors tout d'abord, l'association est née en janvier 2021, administrativement en 2020, et c'est le fruit d'une grande amitié avec Fili Condé, qui vit au Mali, à Bamako, mais qui précédemment vivait dans la même ville que moi, à Latte. Et lorsqu'elle retourne au Mali, elle décide d'y construire une école, et elle se tourne vers moi en me disant « il faut que ce soit un projet, qu'il soit un projet commun, il faut que nous créions des ponts entre nos territoires, c'est-à-dire aussi à partir de notre ville, et notre petit territoire, ce quartier populaire de Bamako. » Et je lui ai répondu oui, parce que c'était dans un moment de ma vie où j'allais prendre aussi ma retraite, ce qui fait que j'allais disposer de plus de temps, et qu'il me semblait que des projets menés par des femmes, qui sont souvent empêchées dans ce type de projet, convenait tout à fait à ce qui avait été un peu l'éthique de ma propre existence. J'avais voulu changer le monde, je n'avais pas réussi. Alors on allait peut-être essayer de faire des petits pas ensemble. Et donc c'est pourquoi dans le titre de l'association, le nom de l'association, c'est Teria, amitié et solidarité, parce que nous y croyons très fort, nous croyons très fort à ces ponts. Et donc elle montait une école. La première des choses, ça a été de m'adresser à mes amis que j'avais rencontrés du collège à aujourd'hui, pour leur proposer ensemble de répondre à la demande de Fili, une autre femme d'un autre continent, mais avec les mêmes espoirs que nous, de voir l'éducation au centre de nos projets. Voilà, l'association est née comme ça, mes amis ont répondu favorablement et très vite nous avons décidé des contours de cette association. Nous allions y développer un partenariat avec des enfants, un parrainage d'enfants, de 10 enfants, qui allait lui permettre d'avoir un petit levier économique. Et nous allions aussi décider d'y monter une bibliothèque scolaire, une bibliothèque ouverte sur le quartier populaire, accessible aux enfants de la rue. Et c'est sur ces deux projets, au départ, que notre collaboration a commencé.
D'accord. Alors, donc, justement, tu parlais de vouloir refaire le monde. Et immédiatement, j'ai pensé, c'est quelque chose qui m'est pas inconnue. Et en même temps, je me suis pensée, voilà, déjà, refaire un petit monde, c'est déjà énorme. Et là, en particulier, tu viens de nous parler de, puisqu'on sait bien que les volets essentiels pour aider des personnes ou des peuples à se développer, on sait bien que l'éducation est particulièrement, et puis l'enseignement, ça en fait partie. Hein, et pour m'être occupée assez longtemps d'enfants de la rue aussi au Burkina, je dois dire qu'ils sont, étonnants, tellement ils sont positifs dans tout ce qu'on peut leur apporter. Et quand tu parles d'une bibliothèque et tout ça, je me dis, mais quelle richesse pour ces enfants, quoi, de cet accès-là.
Ouais. Oui, mais c'est vrai que nous, de par les combats que nous avons menés dans les années qui ont précédé tout cela, nous avons aussi une conception de la solidarité où le mot « aide », nous le revisitons.
Oui, tout à fait.
Voilà.
Tout à fait.
Parce qu'il est évident que durant tous les séjours que j'ai pu faire au Mali pour monter ce projet avec les acteurs de l'école, les instituteurs, le directeur, la cuisinière, les gardiens et tout cela, j'ai autant appris que ce que j'étais censée venir apporter, entre guillemets. Et donc, nous revisitons, nous, le mot « aide » pour être dans... si vous voulez, d'être sur un même niveau. C'est-à-dire que les projets sont décidés dans l'école. L'école est maître de l'ensemble des directions qu'elle prend. Et nous, nous sommes là, à côté. Nous apprenons autant et nous apportons aussi essentiellement du matériel. Et bien évidemment, une solidarité qui, elle, peut s'écrire à un niveau similaire.
D'accord, et donc moi je souscris complètement à ce que tu viens de dire, même si j'ai pu dire le mot aide, parce que dans ma tête, aider, c'est toujours aider des gens qui sont demandeurs et comme tu dis, qui apportent. C'est-à-dire que je suis bien le témoin de ce que je peux dire. Je dis tout le temps que moi, l'Afrique m'a apporté autant et sûrement plus que ce que j'ai pu lui apporter ou ce que je peux continuer à lui apporter. Et que c'est, par contre, c'est vrai que c'est important de le dire dans la conception, dans l'idée. Cette idée est en train de se transformer puisque, par exemple, donc, l'émission est produite par la Maison des Territoires du Monde et la Solidarité Internationale. Donc, mon association fait partie depuis plus de 20 ans, presque 30 ans. Et justement, ça s'appelait la Maison des Tiers-Mondes. Et ça, ça a été complètement, justement, parce que c'était péjoratif. Et donc, c'est pour ça que le nom a changé, la dénomination a changé. Et c'est vrai que c'est très important de le vérifier. Par contre, pour moi, le plus important, c'est que, par exemple, je sais, quand j'ai créé l'association, j'ai fait une charte où il est écrit ce que tu viens de dire exactement. C'est-à-dire, il est hors de question, et ça, on l'a vu, moi, je l'ai tellement vu là-bas, hors de question de faire des projets pour les gens, mais avec les gens, puisque eux-mêmes savent ce dont ils ont besoin, savent ce dont il s'agit, sont au courant de tous les tenants et aboutissants, et que c'est vrai, et que c'est important aussi. C'est un peu ton cas, puisque ça, tu as été sollicité par une amie, et je pense que vous avez une proximité qui fait que à un moment, on peut partager les expériences, on peut partager les points de vue, on peut, voilà. Et ça, c'est très, très important. Et c'est important pour les associations même qui vont se créer ou qui sont déjà créées.
C'est très important de savoir ce pourquoi on crée une association qui intervient dans un pays comme le Mali, qui intervient dans un pays dans cette ville qui est Bamako, et à 15 km de Bamako aussi pour le jardin potager, puisque notre association s'était fixée comme but de devenir en solidarité essentiellement et en premier lieu aux femmes qui peuvent être empêchées, comme je le disais précédemment. Donc, de bien définir tout cela pour ne pas être dans une position que moi je qualifierais de caritative, qui ne nous convenait pas, ou de condescendante, ou d'un regard qui serait biaisé. Et ça, pour nous, c'était fondamental. C'est un peu notre fondement et ce qui fait que nous existons. Et donc, pour nous, cette bibliothèque était fondamentale parce qu'elle était à la demande des instituteurs, et qu'elle nous permettait aussi un partage et aussi une communauté malienne sur Paris ou sur Montpellier qui nous aide au transport des livres. Voilà, c'est tout un réseau de solidarité qui est mis en place et qui fait que l'association peut aujourd'hui se targuer d'avoir pu envoyer plus de 900 ouvrages, et cette bibliothèque maintenant compte ces ouvrages, et l'ensemble des enfants de l'école peuvent bien sûr profiter de la bibliothèque. Et nous, association, nous rémunérons un jeune, Marc. J'ai participé à sa formation, et sa formation continue encore, qui accueille les enfants le mercredi après-midi et le samedi matin pour des activités lecture, pour des activités de contes et autres, ou tout simplement prendre un livre, l'ouvrir, le regarder et pouvoir s'évader avec cela. Pour nous, le livre était très important.
Oui, ça me rappelle une rencontre avec l'écrivaine Malika Mokedem, qui était née à l'orée du désert et qui racontait qu'elle avait eu la chance d'être scolarisée parce que cette année-là, il n'y avait pas de garçons. Tu parles justement de la solidarité des femmes et leur solidité. Il n'y avait pas de garçons qui avaient l'âge d'être scolarisés et elle est devenue médecin et néphrologue, je crois. Et en fait, elle disait que si, quand elle était jeune, si son père avait su où les livres qu'elle lisait, la transporter, l'emmener, il lui aurait supprimé tous ses livres. Pour dire le pouvoir quand même de la lecture. Et dans ces populations africaines qui sont beaucoup dans l'oralité et ou qui ont un imaginaire beaucoup plus souvent riche, moins policé que le nôtre, je dois dire que la lecture, c'est un plus. Vraiment, c'est un plus. Et chez les enfants, en plus, beaucoup, quoi. Voilà.
Alors, à la demande, lors d'un de nos voyages, un certain nombre de jeunes qui fréquentaient l'école nous ont demandé aussi de pouvoir ouvrir un cours d'alphabétisation pour jeunes adultes. Mmh. Il s'appelle Balekou Kakalan. Hein. Et effectivement, là encore, l'école met à disposition les locaux, nous trouve un maître d'école, met à disposition le matériel nécessaire et nous rémunérons les maîtres et ces jeunes femmes et jeunes hommes du quartier peuvent venir dans un lieu très agréable. C'est déjà très important de pouvoir pendant 2 heures chaque soir se réunir et essayer disons d'avoir des relations avec la langue qui est officielle dans leur pays, qui est le français, et pouvoir ainsi ensuite être autonome au niveau des papiers, de l'administration et tout cela. Et pour nous, ça a été aussi une demande des jeunes gardiens de l'école et de jeunes femmes du quartier à laquelle nous avons répondu favorablement parce qu'effectivement, nous pensons que savoir lire et écrire est très important pour pouvoir être au monde.
C'est vraiment un outil d'autonomisation énorme. Parce que je vois que nous, quand même, en France, on a encore des analphabètes, beaucoup plus qu'on ne pense, et que quand on les interviewe, quand on s'entretient avec eux, pour eux, c'est vraiment terrible, quoi. C'est une souffrance terrible. Donc, offrir comme ça cette possibilité, et sur une demande en plus, sur un besoin, sur un désir.
Oui, c'est sur une demande, et c'est aussi grâce au support qu'est cette école dans le quartier, et à sa volonté d'être dans le quartier, et que les gens puissent aussi venir pour ces cours et donc exister au-delà de sa mission première qui est d'accueillir les enfants du jardin d'enfants jusqu'au CM2, voire la sixième qui commence à se profiler. Donc c'était aussi important pour la fondatrice de cette école d'être intégrée dans ce quartier. Et nous, c'est très important aussi de pouvoir essaimer davantage. Une école existe dans un quartier et elle doit remplir aussi cette fonction. Donc, nous étions très heureux de pouvoir y répondre et bien évidemment de trouver les adhérents qui, par leur adhésion, peuvent financer la rémunération des maîtres d'école qui, là encore, est fixée par la direction de l'école. Nous n'intervenons pas sur ces questions-là parce que nous ne sommes pas à même, tout simplement, d'y intervenir.
Tout à fait. Donc, Maria, explique-moi bien. En fait, c'est une école privée, du coup ?
La plupart des écoles qui se créent aujourd'hui au Mali sont des écoles privées. Mais
comme au Burkina. Ouais.
Voilà, je ne suis pas là pour faire un état des lieux de l'éducation au Mali, parce que je ne me permettrai pas, puisque dans notre pays, nous avons aussi des difficultés que nous rencontrons. Ouais. Donc, loin de moi, l'idée de faire ça. Fili a monté cette école pour répondre à un besoin et nous l'avons accompagnée dans la réponse à ce besoin. C'est pourquoi, en tant qu'association Teria Solidarité, nous avions besoin d'un projet dans le cadre de l'école qui soit aussi ouvert aux enfants du quartier qui ne fréquentaient pas l'école.
Oui, voilà. C'est pour ça que je te posais la question, parce que finalement, le modèle que tu nous présentes, c'est vraiment l'école telle que Jules Ferry a pu la prévoir chez nous. Bon, tu as bien dit aussi que chez nous, c'est plus tout à fait la gloire non plus. Mais c'est pour ça que je disais que c'est magnifique, en plus, d'avoir pu, avec ces volontés-là, parce que bon, on sait bien, les écoles privées, hein, y a à boire et à manger aussi. Et je trouve que c'est magnifique de redonner du sens à une école, quoi. Ce sens-là, d'être vraiment la référence du quartier, ce vers quoi on s'appuie, ce vers quoi on va se réfugier parce qu'on a besoin d'apprendre, de savoir, etc., etc.
D'autant que la promotrice de cette école tient énormément à ce que l'école soit dans les clous à tous les niveaux.
Tout à fait.
Et donc, moi, en tant qu'enseignante, et beaucoup d'enseignantes et d'enseignants qui nous ont suivis dans ce projet, tenons aussi à ce que tout soit dans les clous, mais dans les clous du pays où elle intervient.
Tout à fait, bien sûr.
Voilà. Oui.
C'est évident,
donc c'est très très important. Nous, effectivement, certaines amies ont enregistré des comptes pour diversifier les possibles. Mais notre rôle s'arrête là.
Tout à fait. Donc, là, quand tu disais c'est de Philly dont tu parles,
oui,
ton amie.
La promotrice de l'école.
La promotrice de l'école. Elle est en dehors, elle fait quelque chose dans l'école même.
Dans l'école même, pouvoir organiser une école dans les conditions qui sont aujourd'hui celles de son pays est un travail à temps complet.
À temps complet, d'accord.
À temps complet, puisqu'il faut que l'école soit viable et qu'il faut qu'elle puisse rémunérer ses instituteurs. Il faut que tout soit prêt et l'école est un lieu magnifique, il est à son image et il demande tout son temps. Voilà, c'est une occupation à temps complet.
À temps complet, d'accord. Voilà. Donc, elle ne savait pas quand elle était à Montpellier, sûrement. Elle se doutait peut-être pas quelle serait sa vie quand elle retournerait, non ? Vous en parliez quand vous étiez étudiante ou...
Non. Nous n'avons pas été étudiantes ensemble. Nous sommes connues dans le cadre, parce que nos filles, nos petites, dernières, étaient à l'école ensemble. Donc, nous nous connaissons depuis 30 ans. Mais nous avions, en d'autres temps, la volonté de monter une association culturelle en Afrique de l'Ouest. Nous avions des tas de projets, des tas de rêves. Et la réalité nous rattrape et nous sommes là sur l'essentiel. C'est pourquoi l'association a aussi ce volet culturel.
Tout à fait.
C'est-à-dire que nous avons des projets, vraiment des petits projets que nous finançons avec les adhésions de nos adhérents, puisque chaque sou versé par les adhérents va à des projets. Le fonctionnement de l'association se limite à 3% de son budget parce qu'il y a les assurances à payer et tout cela. Mais il ne provient pas des adhésions. Les adhésions, c'est des projets financés. Ça, nous y tenons énormément. Et nous avons tout ce volet culturel parce que ça nous paraît aussi important qu'une association ne soit pas là et ne se limite pas à faire ailleurs, même si cet ailleurs est aujourd'hui aussi ici. Et donc nous avons toute la dimension culturelle, mais celle-ci concerne l'Afrique dans sa globalité. Donc, nous organisons des concerts, des expositions, des projections de documentaires ou de films. Et surtout, nous sommes très fiers d'avoir monté, dès le début de l'association, un groupe de lecture nomade. Et nous visitons la littérature africaine, qu'elle soit arabophone, anglophone, francophone, d'ici et de là-bas, et ainsi nous essayons aussi de changer un peu notre propre curseur et notre perception de ce qu'est l'Afrique.
D'accord, donc c'est quand même un projet assez riche quand même malgré tout, même s'il est sur des renoncements au départ, j'entends bien, mais finalement la réalité elle est quand même, elle est riche, parce que c'est vrai que l'école et la culture, normalement ça doit être ensemble, et c'est pas toujours possible. Alors ce que je propose, Maria, parce qu'il y a plein de choses encore à dire, j'ai plein de questions à poser aussi, mais surtout tu as des choses à dire, je propose qu'on fasse une petite pause musicale. Alors c'est toi qui nous a choisi, qui nous va nous enchanter avec la voix d'une chanteuse magnifique.
Doumo Sangaré.
Comment Sangaré
Alors le titre, je pense que tu t'en souviens mieux que moi.
Je sais qu'il y a le mot Mousso dedans, parce que Mousso, ça veut dire femme. Moussolou, oui, ça veut dire femme, hein, en Bambara, en Djoula aussi. Donc Moussolou par Oumou Sangaré. Merci de ce choix, Maria.
Merci.
Eh bien, nous voici de retour. Moussa Sangaré nous a transportés dans ses rythmes et avec sa si belle voix. Et je suis de retour dans les studios de FM+, toujours en compagnie de Maria Blanco. Et nous sommes toujours en train de parler de l'association Terria Solidarité, qui a quand même des beaux projets et qui a conduit et qui conduit toujours, qui accompagne et qui est partenaire d'une école là-bas, d'une école dans un quartier de Bamako. Voilà. Donc Maria, on continue un peu sur les activités, vos manifestations. Qu'est-ce que tu souhaiterais nous dire ?
Pour résumer les activités de l'association, vraiment c'est l'intervention dans ce groupe scolaire Matisse et Prézi à Bamako, sous trois formes, le parrainage de 10 enfants, cette bibliothèque scolaire sur le toit de l'école maintenant, construite, toute neuve, prête à accueillir des enfants mercredi et samedi, et un groupe d'alphabétisation de jeunes adultes. Et à 15 km de Bamako, un potager pour les femmes, mais je n'ai pas trop de temps maintenant pour le développer.
Oui, tu peux en dire deux mots quand même. Hein.
Voilà, ce potager, il existe depuis 2020 et il est porté par 6 femmes. Et effectivement, ce sont des cultures maraîchères. Mmh. Leur grand problème est l'eau. Nous avons résolu dans un premier temps le problème de l'eau avec le puits et le marigot, mais oui. Aujourd'hui, le changement climatique fait des forts dégâts et nous ne pouvons pas, nous n'avons pas les épaules assez larges pour un forage solaire, mm-hmm. parce que sinon, de toute façon, c'est résoudre un problème et en créer un autre. Et donc, ce magnifique projet de forage solaire qui permettrait à ces femmes de cultiver beaucoup plus de mois qu'elles ne peuvent cultiver est en stand-by. Voilà. Mais nous maintenons le contact avec elles. Elles continuent à produire les mois où elles peuvent disposer d'eau grâce au puits, mais un puits de 12 mètres et à un marigot. Et les autres mois, elles reprennent leurs activités de ramassage de bois, de cailloux qu'elles vendent au bord de la route. Voilà. C'était dans le projet initial de l'association, comme je vous le disais, d'être en solidarité effective avec des femmes empêchées, et ces 6 femmes, à elles 6, font vivre plus de 70 personnes. Donc le maraîchage leur permet d'être autonomes, mais aussi de diversifier le bol alimentaire. Et pour nous, c'était très important.
Il faut dire que le maraîchage, dans ces pays-là, bon, moi c'est, je parle du Burkina, mais c'est pas, là où je vais, c'est pas loin du Mali, c'est quand même une marque de la puissance féminine. Hein, parce que par exemple, elles peuvent produire à la saison, elles faisaient quelques fraises par exemple, des choses comme ça qu'elles allaient vendre au marché et qui leur rapportaient beaucoup, qui rapportaient de quoi racheter en plus l'huile pour préparer, etc., etc., la farine et tout ça. Donc le maraîchage, c'est quelque chose qui est très important là-bas et qui est porté par les femmes essentiellement. Donc c'est un peu dommage là.
Oui, c'est-à-dire que là, elles souffrent directement des problèmes sahéliens, hein, mm-hmm. qui sont des problèmes globaux et pas simplement qui les concernent.
Tout à fait.
Parfois, elles produisent beaucoup de salades, mmh, elles produisent des aubergines tout à fait différentes des nôtres, mais elles les produisent aussi au moment où les prix sont les plus bas. Mmh. Donc, effectivement, c'est toujours très difficile d'avoir une rentabilité, mais déjà de pouvoir travailler ensemble dans un champ de 2500 mètres carrés, de pouvoir s'y retrouver, de pouvoir vendre ensemble et acheter les semences pour pouvoir produire l'année d'après. C'est déjà un projet qui pour elle est très important. Mmh. Voilà. Mais nous sommes désolés de ne pas pouvoir faire plus.
Oui, mais bon, ils savent bien aussi. Mais c'est vrai que ça fait mal, quoi. Hein. Ça fait mal. Et comme tu dis, quelquefois, c'est à double tranchant. C'est-à-dire vouloir absolument, d'un côté, prendre de l'eau, etc. Et puis de l'autre, voilà, quoi. C'est pas toujours aussi évident que ça.
Non, c'est pas évident. Et pour pouvoir mettre en marche la construction d'un forage solaire, il faut pouvoir se rendre sur place, il faut pouvoir travailler et cela n'est plus possible. Et donc, les financements de notre petite association ne nous permettent pas d'honorer le coût d'un tel projet et de pouvoir le suivre pas à pas, ce qui est l'engagement de l'association, de faire avec les personnes.
Voilà, là on va faire comme les chanteurs, ceux qui appellent les pluies, les faiseurs de pluie. On va espérer que la pluie soit bienveillante. C'est pas tout de suite, mais la saison de l'hivernage, ça arrive vers le mois de juin, quoi. Mai-juin, on va souhaiter qu'il y ait un bon hivernage cette année qui permette aux femmes de mieux cultiver. Alors, j'aimerais bien que tu me dises un petit peu tout ce que vous pouvez organiser, parce que vous organisez plein de choses, hein. Et voilà, vous, l'association, et où vous en êtes un petit peu, ce que vous faites.
C'était aussi dans la conception de départ, c'est-à-dire qu'il fallait que l'on œuvre ensemble ici, que l'on ait des activités qui nous rassemblent et de ne pas être une association qui ne fasse que gérer des dons qui lui seraient faits en lui faisant une totale confiance sur la destination de ses fonds. Et donc, l'idée de départ, c'était vraiment qu'il y ait une association culturelle parce que c'était ce qui nous intéressait, ce qui était notre propre moteur et ce qui nous permettrait aussi peut-être de pouvoir changer un peu la perception que l'on pouvait avoir de l'Afrique qui est souvent... à mon sens, une perception complètement tronquée.
Absolument.
Et donc, nous avons comme ça monté notre première lecture nomade. Et tout au long de ces années, nous explorons la littérature africaine. Et quoi de mieux que d'inviter des auteurs et des autrices qui viennent de ce continent ou qui écrivent en France, mais qui ont cette double culture, et de les inviter et de présenter leurs livres et de faire des réunions publiques où il est question de littérature, il est question d'Afrique, il est question de solidarité, de convivialité, de lien social, pour essayer de créer des, comme dirait Edgar Morin, des petits îlots de fraternité.
D'accord. Et donc, vous organisez sous quelle forme, tous les combien à peu près?
Alors, les lectures nomades ont lieu tous les mois. Nous organisons à peu près 7 événements dans l'année, dans les lieux qui nous ressemblent, des maisons pour tous, des médiathèques. Nous sommes particulièrement partenaires avec la médiathèque de Latte, là où est l'association, la maison des relations internationales, et aussi un lieu qui nous est cher, c'est le café. Donc, le Café Juste Humain à Latte, le Dôme, bien évidemment, à Montpellier, et la Gazette Café, qui nous accueille régulièrement pour ces rencontres. Et après la rencontre, un moment de convivialité, nous déjeunons sur place, ce qui nous permet de poursuivre tout cela. Ensuite, nous répondons à des appels à projets qui nous sont présentés. Nous répondons aussi à des demandes et nous organisons des événements en fonction de ces appels à projets ou de ces demandes. Nous commençons à être connus dans la région. Donc dernièrement, nous étions avec Avit Chantier, Avit Neuve les Maguelones. Nous tenions notre stand. Nous vendions nos petits objets qui viennent tout droit du Mali et qui sont de la même manière qui nous ressemblent. Je vais prendre simplement un exemple. Les savons des femmes de Sibie. Donc, elles fixent le prix du savon et nous, nous le revendons. Et cette différence, elle retourne dans le paiement des salaires du bibliothécaire ou de l'instituteur de Balikouka Kalan. Voilà. Et des petites pochettes pour mettre ces savons. Et donc, nous répondons comme ça à des appels à projets. Et les appels à projets auxquels nous répondons le plus souvent, puisque maintenant, nous avons été identifiés, c'est la Maison des Francophonies.
D'accord. Voilà. Alors oui, alors justement, on va y venir. Mais juste en attendant, parce que l'émission commence à bien avancer... juste en attendant, tu nous dis les appels à projets. Où est-ce que, par exemple, si les gens veulent vous solliciter, vous proposer, etc., ils s'adressent à qui et comment?
Alors, ils s'adressent à teria223@gmail.com en nous envoyant un mail.
Teria, rappelons, hein, comment ça s'écrit?
T-E-R-I-Y-A-223. @gmail.com.
D'accord.
Ou notre page Facebook Teria Solidarité. Pour l'instant, nous n'avons pas de site. Voilà.
D'accord, mais c'est déjà...
Nous fonctionnons déjà à l'ancienne, avec des mails, avec des flyers, avec
mais ça marchait pas si mal. Ça marche pas si mal que ça, Maria.
Si mal
la
que
preuve,
ça.
On a réussi à se contacter, à se retrouver. Donc, voilà. Et donc, justement, on parlait de la francophonie, et tu pourrais nous parler, avant qu'on se quitte, de l'événement qui va arriver, là, donc
Oui. Alors, dans le cadre des rendez-vous des francophonies, qui est un festival organisé par la Maison des francophonies qui est à Montpellier, nous avons répondu à un appel à projet. Notre projet de rencontre de Diadé Dembélé, qui est un auteur malien qui réside sur Paris, a été accepté. Donc, nous allons l'accueillir avec des partenaires avec lesquels nous travaillons maintenant régulièrement, comme la boutique d'écriture. Mmh. Et nous allons l'accueillir le 13 mars de 16h30. De 16h30 à 18h30, il organise un atelier d'écriture. Et le lendemain, le 14/03, au café... Le Dôme, de 10h à midi, nous allons rencontrer Diadé Dembélé qui va nous faire une micro-conférence sur la langue française. Et ensuite, nous présenterons ces deux ouvrages, Le Duel des grands-mères et de grands hommes et demi. Mmh. Les adhérents de Lecture Nomade liront des extraits. Et le public réagira par des questions ou par d'autres lectures. Ça sera un moment interactif à la Brasserie Le Dôme ce samedi matin.
D'accord, donc c'est un programme très complet, très alléchant. Je rappellerai simplement que un des continents les grands défenseurs de la francophonie, c'est l'Afrique. Entre autres, hein. C'est très important. Pour l'Institut de la francophonie, il y a quand même des gens qui s'appliquent à ça. Alors donc, pour vous rappeler que si vous voulez participer à ce festival auquel participe Teria Solidarité, donc la francophonie, donc le festival, le 13 mars, vous avez un atelier d'écriture de 16h30 à 18h30 à la boutique d'écriture Faubourg Figuerol. Et le 14 mars, de 10h à midi, vous avez une conférence qui parle de la souche aux racines culturelles multiples, une langue vivante ouverte sur le monde, c'est tout un programme, à la Brasserie Le Dôme, donc de 10h à midi. Je suppose qu'après, ce sera possible
On déjeune sur place et le festival dure tout le mois de mars.
Voilà.
Et nous sommes vraiment très reconnaissants à la Maison des francophonies d'accepter les projets des associations.
Voilà.
Voilà.
D'accord. Donc, merci beaucoup. On se reverra sûrement sans tarder, Maria Blanco, d'avoir ouvert tous ces champs-là. On souhaite longue vie à l'école et surtout de la pluie pendant la saison d'hivernage. Et je te remercie beaucoup d'être venue aujourd'hui à notre rencontre et de nous avoir éclairé sur tout ça.
Merci. Merci à toi de m'avoir reçue et merci à la MTMSI de nous héberger aussi.
Voilà. Merci, au revoir à tous.